Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 27 mai 2024. Publication d'une étude dans la revue de l'Académie des sciences des États-Unis sur les relations champignons-arbres affectés par le dérèglement climatique en Amérique du Nord. En quoi consiste cette relation champignon-arbre? Quels sont ses bienfaits? Qu'est-ce que la perturbation de cette relation engendrerait à la surface du globe? Comment le dérèglement climatique pourrait être à l'origine d'un tel désordre? Qu'est-ce qui a permis aux chercheurs de comprendre ce phénomène? Existe-t-il des solutions pour permettre aux arbres de résister à ces changements? Les arbres bougent. Si, si, ils se meuvent avec le transport de leurs graines dans de nouvelles contrées. De tout temps, la migration des populations végétales a transformé des paysages, intégrant leurs textures et couleurs à des forêts déjà composées ou bien en devenir. Mais ne nous arrêtons pas à ce qui est en surface et qui ne représente qu'une partie de ces géants verts. Depuis plusieurs décennies, les chercheurs considèrent que l'arbre est une entité qui ne peut vivre sereinement sans son champignon attitré. Cette relation bénéfique, autant pour le champignon que pour l'arbre, s'appelle la symbiose mycorhizienne. C'est au niveau des racines que tout se passe. Donne-moi du sucre et je te donnerai de l'eau, en suffisance, en abondance, de quoi manger, de quoi communiquer avec les autres de ta fratrie. Je parerai tes racines d'une nouvelle structure leur permettant de s'étendre 10 à 100 fois plus loin dans le sol. Ainsi, ce type de champignon permet à l'arbre bien des avantages et déroge à la réputation de champignon tueur qui apparaissent en surface sur certains arbres fragiles. On pense aux polypores ou aux lactaires couleur de miel. Chaque espèce d'arbre possède une relation bien spécifique avec certains champignons. Les cueilleurs les plus avertis utilisent d'ailleurs cette connaissance de symbiose pour trouver de nouvelles zones de récolte. Après cette petite introduction, laissez-moi vous parler de cette étude nouvellement parue qui interroge les potentiels effets du dérèglement climatique sur cette relation plante-champignon. Cette étude a été réalisée en Amérique du Nord et par conséquent utilise des données différentes de celles de notre territoire. Cependant, la méthode d'investigation et les tendances relevées demeurent pertinentes pour illustrer les problématiques auxquelles nous pourrions faire face en France et en Europe. Pour parvenir à comprendre l'impact du dérèglement climatique sur cette relation symbiotique, les chercheurs ont regardé de près les interactions entre 50 espèces d'arbres et 400 espèces de champignons mycorhiziens. Selon eux, le changement climatique impactera négativement 35% des relations entre les arbres qui y vivent et les champignons ectomycorhiziens, une catégorie de champignons mycorhiziens. Tous deux n'ont en effet pas les mêmes niches climatiques, arbres et champignons, et ne réagissent pas de la même manière au bouleversement des températures. Ils risquent donc d'aller s'établir à des endroits où l'autre espèce n'est pas. Leur interaction risquerait de s'éteindre localement. Parmi les espèces d'arbres étudiées, les arbres les plus vulnérables appartiennent à la famille des pins. Power. considérer, le dérèglement climatique est une chose. Cependant, les activités humaines mettent d'ores et déjà des freins monumentaux à l'installation des arbres. Je m'explique. Lorsque la graine circule dans l'estomac d'un oiseau ou au gré des vents, elle n'emporte pas avec elle un peu de ce sol contenant ces champignons si vitaux. Pourtant, les arbres doivent pouvoir migrer, car le climat change et il change rapidement et violemment. Ces réfugiés à racines en quête de compagnons champignonesques sont parfois totalement dépourvus face à ce constat. Ils ne peuvent s'établir sur des sols dits aseptisés ou fortement érodés. Comment s'établir ? Dans nos exploitations agricoles où le sol est largement affecté par les fongicides, les tueurs de champignons, ou bien encore les exploitations sylvicoles, pour le bois, qui composent la majorité des forêts en France et ne cessent de s'étendre au profit des industries du bois. Où le glyphosate règne parfois en maître, et où le sol est largement contraint par une culture intensive monospécifique. Qui dit monospécifique dit peu de chances d'avoir un compagnon mycorhizien où la connexion est possible, faute de diversité. Autant de décisions européennes pour atteindre un objectif de 100% de sol sain à l'horizon 2050, à l'aube d'un jour où la loi européenne de restauration sur la biodiversité est présentée en format réduit, au lendemain de l'annonce que les retournements de prairies pour la culture intensive sont autorisés sans préavis en France durant la campagne 2023-2024, à l'heure de projets français de loi d'orientation agricole où l'article 13 dépénalise les atteintes aux espèces, habitats et lieux protégés, loi votée et approuvée à l'Assemblée générale le 24 mai 2024. Pour rappel, auparavant, il suffisait de prouver l'imprudence ou la négligence du porteur de projet pour caractériser l'infraction. Avec cet amendement, la situation change. Un chasseur qui abat une espèce protégée, qu'il aurait confondue avec une espèce gibier, un particulier qui provoque la mort d'une buse avec des produits phytopharmaceutiques contre des rongeurs, un industriel dont les éoliennes autorisées auraient causé la mort de Milan Royaux. Des rapaces, de plus en plus rares sur le territoire. Tous pourront plaider la bonne foi et ne plus être poursuivis, même s'ils n'ont pris aucune précaution et n'ont pas fait l'effort de se renseigner. Désormais, le Sénat doit aussi approuver la proposition. Si le Sénat maintient cette proposition contraire au droit européen, une mobilisation associative est en marche pour contester le décret d'application devant le Conseil d'État et, si besoin, devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui, dans ce cas précis, est peut-être le dernier rempart du vivant face à une amplification de décisions mettant à mal toute logique scientifique. Nul doute que ces décisions contradictoires ne donnent pas clairement l'impératif suivant : arrêter l'utilisation des fongicides et les destructions de sols vivants au risque de voir toute la végétation qui en dépend s'effondrer brutalement, entraînant avec elle, entre autres, multiples choses, notre sécurité alimentaire et notre résilience face au dérèglement climatique. En d'autres termes, et en réponse à la mouvance de plantation actuelle investie notamment par le programme gouvernemental de plantation, quel intérêt de planter un arbre ou une haie si cette dernière met une décennie à gagner quelques dizaines de centimètres, car elle ne possède pas son fidèle compagnon champignon. Les inoculums sont une solution de secours où l'humain vient implanter le champignon quand celui-ci manque. Je tiens cependant, en tant qu'écologue, à émettre une réserve sur l'implantation d'espèces ciblées sans intégrer une vision plus large de l'écosystème dans lequel on les introduit. Cependant, à défaut de faire en sorte de préserver et conforter les sols vivants dans leur diversité, ce type d'ingénierie demeure des solutions d'urgence qui temporiseront tant bien que mal des développements du territoire contraires à la résilience du vivant, humain encore et toujours compris. Don't you know I need you, Lord? Don't
you know that I need you? Don't you know that I need you?
Si ce film catastrophe qui se déroule devant nos yeux fait fi de tout espoir, notre faculté à réinventer ce monde nous appartiendra toujours. Un imaginaire commun demande à se construire. Laissons-nous guider, ne serait-ce qu'un instant, par un récit fantastique où les limites du réel sont interrogées. Le monde imaginaire de Martin.
Martin est un gentil garçon, un tendre, un rêveur, de ceux qui traînent en chemin pour ramasser un bouquet de fleurs ou aider un scarabée à traverser. Seulement, la vie ne fait pas de cadeaux aux garçons comme lui. Les moqueries et plaisanteries pleuvent sur sa tête. Mais Martin a le dos rond et garde le sourire, car il a un secret que seul lui connaît. Martin a des doigts de fée. C'est un as du bricolage, du recyclage, du découpage, du collage. Et surtout, Martin adore dessiner. Sur le papier ou dans sa tête, il refait le monde avec ses couleurs à lui. Petit à petit, le monde imaginaire de Martin prend de l'ampleur. Il devient brume, puis s'étire et flotte bientôt partout autour de lui. Émerveillé, Martin voit ses dessins prendre vie. Alors, il expérimente. Il invente, ose des folies. À cheval entre deux mondes, Martin a la tête dans les nuages. Chaque rue a désormais son double, chaque ombre son secret, qui se dévoile à ses yeux seuls. Martin s'enhardit chaque jour un peu plus. Il s'enfonce dans la brume douce et veloutée de ce monde merveilleux qui surgit sous ses doigts. Il emprunte des petites ruelles, fait des tours et des détours, explore sans relâche. Il se perd dans un monde imaginaire, s'éloignant chaque fois un peu plus. Un jour, après un passage en arcade au reflet nacré, il s'immobilise. Pouche B. Devant lui se dresse un immense palais flottant sur un nuage bleu. Martin n'a jamais rien vu d'aussi beau. Il admire longuement chaque détail de la façade, persuadé d'avoir enfin trouvé le cœur de son royaume secret. Mais il entend soudain une voix, au loin, qui l'appelle et le presse de rentrer. Les murs se couvrent d'un nuage de brume. Le palais s'estompe, puis disparaît complètement. Le cœur lourd, il rebrousse chemin et retourne vers la réalité. Martin ne peut oublier ce magnifique palais. Et un beau jour, n'y tenant plus, il décide de s'en aller, de tout quitter pour s'installer dans son monde à lui. Arrivé aux portes du palais bleu, il pose ses valises, réfléchit un instant, puis esquisse quelques gestes gracieux dans l'air. La ville finit par prendre vie sous ses doigts, par petites touches précises. Il ajoute quelques enfants qui jouent sur la place, puis crée des échoppes et des personnes ici et là. Tous sont joyeux et aimables. Dans le monde de Martin, personne ne crie, ni se moque des autres. Tous tendent la main vers leurs voisins. Enfin, un majordome moustachu sort en courant du palais. Il salue Martin et lui dit
« Nous t'attendions, nous sommes heureux de t'accueillir chez toi. Bienvenue !»
Le sourire aux lèvres, Martin entre dans le palais d'un pas assuré. Ici, il sera le roi. Au début, Martin nage dans le bonheur. Il lui suffit de dessiner ce dont il a besoin pour satisfaire ses moindres envies. Mais finalement, au fil du temps, il ressent comme un vide. Un tout petit vide qui grandit de plus en plus. Jusqu'au jour où, en dessinant distraitement un groupe de personnes, il réalise qu'il les connaît. Ils lui font de petits gestes timides, puis prennent la parole.
« Tu nous manques, Martin. Nous t'aimons tellement fort.
Reviens.
Martin a très envie de les revoir lui aussi. Et de les serrer dans ses bras. Alors, il dessine une petite porte. Une vieille porte, usée par les caprices du temps, qui s'ouvre en grinçant. Sa famille et quelques amis sont là. Ils l'attendaient. Martin se précipite. Il est pressé de retrouver son petit monde maintenant. Après tout, rien ne l'empêchera de revenir dans son royaume secret, quand il le souhaitera.
Dessiner ce qui pourrait être, rêver à ce qui devrait prendre racine. Seul, c'est parfois bien triste. Ainsi, des collaborations se créent pour pallier à cette solitude de l'imaginaire. Le 11 avril 2022, la Société des auteurs et Arsena rassemblait des artistes autour du thème « Artistes et imaginaire écologique ». Troisième étape du cycle « L'écologie » de la création en question. Après avoir évoqué l'écosystème du spectacle vivant, fragilisé par le déséquilibre chronique entre production et diffusion, puis son impact environnemental et les pistes concrètes pour développer des activités éco-responsables, le débat a porté sur la façon dont les artistes se saisissent des enjeux écologiques à travers leur création, dont ils permettent, par l'intelligence sensible, de penser, de témoigner, de représenter cette crise du vivant, et peut-être de réinventer le monde. Que ce soit via le festival de théâtre Les Anthropocènes, dirigé par Valérie Baran, ou les créations hybrides scientifiques et artistiques de David Wall, ou bien encore via les conférences performances de Frédéric Aitvoiti, une metteuse en scène qui s'était associée pour plusieurs spectacles avec Bruno Latour, un anthropologue et philosophe des sciences. Car taper du pied devant celles et ceux qui ne regardent pas ou qui ne veulent pas voir fera toujours plus d'effet si un des pieds fait encore signe de le suivre. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à un passionné du vivant avec cette question d'actu. Cuisiner aux petits oignons.
Mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.